MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors hier, on a parlé des épreuves, de ces choses difficiles qui peuvent nous arriver. Et aujourd'hui, on va voir comment faire, comment se comporter quand ça dure longtemps. On va parler de persévérance aujourd'hui avec Aurélie et notre invitée de la semaine, Audrey Mac.
Bonjour mesdames, bonjour à tout le monde.
Ça va Audrey?
Ouais, ça va, on a bien mangé. J'ai le droit de dire qu'on vient de manger.
T'as le droit de le dire, on a bien mangé. C'est important qu'on mange bien avant les émissions. Rien de tel que le ventre plein.
C'est ça, c'est une bonne petite salade. C'est très bon. Vous avez manqué quelque chose.
C'est tellement drôle, Audrey. Ne change pas, reste tel que tu es. Aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler de persévérance. C'est surtout toi qui vas nous parler de persévérance dans la rubrique Conseil du coach. Comment devenir persévérant, c'est ça? De quoi
oui.
tu vas nous parler?
Mais en fin de compte, je vais essayer d'aller du côté pratique. Mm-hmm. Comment développer cette qualité de persévérance dont nous avons tous besoin pour arriver à la fin du parcours dans la victoire.
Et c'est hyper important. La
Et on doit commencer tôt.
La persévérance, c'est pas juste en bout de ligne alors, c'est
non.
ça? Suspense. Ça va bien, toi, Aurélie?
Ça va très bien. Tu sais qu'il y a des gens qui m'appellent parfois Audrey au lieu de dire Aurélie.
C'est vrai?
Je savais toujours que j'avais une sœur au Cameroun.
Il y a un petit air de ressemblance, effectivement. Hein. Vous avez à peu près la même taille, je pense. Oui. T'as un peu pas la seule ressemblance. Allez, Aurélie, on commence avec toi dans notre pensée du jour.
L'un de mes versets préférés quand il s'agit de parler d'épreuves qui durent longtemps, c'est dans le psaume 30 au verset 5. Dans certaines traductions, dans certaines versions, c'est au verset 6. La Bible dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Le soir, c'est quoi? C'est une période difficile. C'est ce que les gens parfois vont appeler le désert. C'est quand on espère sortir de cette situation à tout prix. On se présente devant Dieu, on lui dit « Jusqu'à quand, Seigneur, cette situation va perdurer ?» Et parfois, peut-être même vous qui nous écoutez, vous êtes dans cette saison où vous dites « Seigneur, j'en ai marre, il faut vraiment que ça change ». Mais la Bible te promet que même si tu es en train de pleurer aujourd'hui, il y a une période aussi dans la vie qui s'appelle le matin. Et le matin, il y a des chants d'allégresse. C'est le jour où vraiment ce que tu espérais depuis tant d'années arrive enfin. Et dans le psaume 126, la Bible nous dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve ». En fait, c'est le jour où, enfin, Seigneur, c'est comme si tu es dans un rêve. La situation par laquelle tu as passé depuis toutes ces années, enfin, elle se débloque. Et il dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Et alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. C'est qu'au lieu de vous morfondre, alors que vous êtes en train de passer peut-être par une situation difficile, je vais vous encourager à garder la bonne attitude pendant l'épreuve. Il y a une bonne attitude à avoir. Et la Bible en parle dans Jacques au verset 1. La Bible dit, « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. » Là, je lis dans la version Parole vivante. « Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. » Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Donc ici, on est en train de dire quelque part qu'il y a un fruit que l'épreuve va produire dans notre vie. Et ce fruit, c'est un fruit de patience, c'est un fruit de maturité spirituelle. Il y a plusieurs choses qui vont se passer si on choisit d'avoir la bonne attitude. Joseph a eu la bonne attitude. Il a été vendu par ses frères, il a connu l'esclavage, il a été en prison. Et pourtant, alors qu'il était dans toutes ces étapes-là, c'était long. Mais la Bible dit qu'un jour, alors qu'il a été sorti de prison pour aller voir le pharaon, sa vie a complètement changé. Il est devenu le premier ministre d'Égypte. Il a eu un soir, il a eu également un matin. Et c'est ce qu'on vous souhaite aujourd'hui. Il y a un soir, mais il y a aussi un matin. Alors persévérez, car Dieu est fidèle et il tient ses promesses.
Amen. Merci Aurélie. Je nous emmène tout de suite dans notre verset du jour. On va aller dans Romains 5, au verset 3 et 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. J'aime bien cette version aussi, on se met des petits changements de version aujourd'hui Aurélie, mais j'aime bien cette version qui nous parle de cette victoire dans l'épreuve et de notre regard en fait sur l'épreuve, tu l'as dit dans ta pensée. Notion de réjouissance dans l'épreuve. Ça paraît un petit peu contradictoire quand même. Ouais, je suis éprouvée. Ouais, je souffre. Bon, on est d'accord que c'est difficile d'avoir ce niveau-là. Mais c'est, en fait, c'est cette notion, comme tu le disais, de ce regard qu'on peut avoir sur l'épreuve, de se dire, en fait, je traverse cette épreuve. Dieu n'en est pas l'auteur. Dieu ne m'envoie pas le malheur, ne m'envoie pas la maladie, la détresse, etc. Dieu n'en est pas l'auteur. Mais Dieu est capable de le transformer en bien et d'en sortir du bon, en fait. Et si mon attitude est bonne, et on a vu la bonne attitude à avoir dans les moments difficiles dans l'émission d'hier avec toi, Audrey, si mon attitude est bonne, j'ai cette assurance que je sors triomphante de cette épreuve. Maintenant, qu'est-ce qui va en ressortir de bon? Est-ce que je vais juste souffrir pendant une période? C'est bon, c'est terminé, puis ça s'arrête là. Non, parce que Dieu est bon et Dieu est capable, comme je le dis, de transformer le mal en bien et d'en ressortir même quelque chose de bon qui va m'être utile pour la prochaine épreuve qui va arriver, qui va faire que la prochaine pourra durer moins longtemps, que je serai davantage combative, que je saurai exactement comment me positionner, quelle attitude avoir. Et en fait, mine de rien, c'est une formation qui se fait dans la difficulté, dans l'épreuve. Mais encore une fois, je veux préciser que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ces moments-là. Parce que des fois, on fait un petit mélange quand même.
Oui. Mais le fait aussi, ce qui est intéressant, c'est même de savoir ce qui nous encourage, qu'on peut avoir cette position de se réjouir. C'est de savoir, on en a parlé, qu'on sait qu'en Christ, on a déjà la victoire. La bataille a déjà été gagnée, donc c'est déjà un point de notre côté. Mais de savoir aussi que quand on choisit de l'aborder avec joie et de se réjouir, parce que Dieu prend ce que l'ennemi fait pour le mal, il le tourne pour le bien, et ça en devient un témoignage, ça en devient quelque chose de puissant. Et on devient cet épître vivant. C'est-à-dire que tout d'un coup, face aux autres, on est la preuve que Dieu est bon. On est la preuve que Dieu prend le mal et le tourne en bien. On est la preuve, parce qu'on peut en parler toute la journée, et les gens disent, ah oui, ça devient un peu du théorique, mais on est le côté, on dit non, regarde-moi, j'étais attaquée avec ceci et cela, et je dis toujours, même j'en parle souvent de mon témoignage, quand j'étais attaquée avec le cancer des os, et la parole que j'ai entendue dans mon salon ce soir-là, à ce moment-là, bombardée avec tu vas finir dans toutes un fauteuil roulant, tu vas mourir, tu vas jamais plus prêcher, tu vas jamais être toi, tous ces trucs qui viennent, mais seulement c'est réjouis-toi, car ce que l'ennemi a fait pour le mal, ça va devenir ton plus grand message. Wow. Et c'est, les gens me demandent comment es-tu arrivé dans le ministère de guérison au travers d'une attaque que j'ai choisi de me réjouir face à ça. Wow. Et c'est vrai, le Seigneur l'a pris et c'est devenu mon plus grand message.
C'est énorme. Et on peut voir aussi ce genre de choses quand Jésus a ressuscité Lazare. Jésus apprend que Lazare est malade. Jésus pourrait partir tout de suite et venir guérir Lazare qui était encore en vie à ce moment-là. Non, il va laisser passer quelques jours. Et quand il apprend que Lazare est mort, il va dire c'est pour la gloire de Dieu. Tu te dis, mais en quoi une mort peut être à la gloire de Dieu? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais parce qu'il sait déjà le fruit de cette résurrection, cette mort n'est pas définitive, il dort. Il va dire même il dort. Et les disciples ne comprennent pas, mais il dort ou il ne dort pas. Bon, il va leur dire vraiment, ils sont morts. Il est mort en fait. Il capote, il est mort. Mais je vais le réveiller de la mort. Et en fait, on voit l'importance aussi de la puissance du témoignage. Guérir un malade, c'était fort, mais ressusciter un mort, c'était encore plus fort, encore plus puissant, encore plus grand. Et encore une fois, on voit comment le Seigneur a pu se glorifier dans cette situation et laisser un témoignage partout. Tous ceux qui ont entendu cette histoire ont été bouleversés. Jésus avait ressuscité Lazare quand même. Les gens s'en sont souvenus.
Ouais, en tout cas, c'est dans la même logique. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire de Joseph dans la Bible que j'ai citée dans ma pensée du jour. Parce que tout au long de ces épreuves, qui sont quand même longues, oui, il a quand même gardé une bonne attitude. Mm-hmm. Tu vois, il aurait pu devenir aigri, méchant, ah oui, vis-à-vis de ses frères et tout. Il aurait pu accuser à longueur de journée la situation, etc. Mais on voit quand même que son attitude est positive. Mm-hmm. Tu vois, moi, je me dis, il est en prison. Et puis, il y a deux personnes qui ont fait un songe. C'est quand même un songe qui l'a amené en prison, là. C'est parce qu'il a rêvé des choses, oui, qu'il a parlé. Il aurait pu se dire, mais oui, si je suis ici, c'est parce
les
que voilà.
Rêves,
il
a... c'est rien du tout.
Voilà. Mais il a gardé une bonne attitude tout le long. Et il a dit à ses frères, ben, comme tu disais, ben, le mal que vous avez prévu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Amen. Donc, je crois que c'est... les épreuves vont arriver, hein, qu'on le veuille ou pas. Mm-hmm. Mais c'est nous qui choisissons notre attitude dans l'épreuve. C'est nous qui choisissons, mm-hmm, de comment est-ce qu'on va passer cette épreuve-là. Est-ce que je choisis de faire comme la parole le dit, de me réjouir en sachant, comme Auré a dit, qu'il y a la victoire au bout? Ou alors est-ce que je choisis de me plaindre, de critiquer, de morfondre, de me dire, de ressasser peut-être le mauvais? C'est à nous de choisir. Et on doit se servir de la parole de Dieu pour faire les bons choix, mm-hmm, pour dire, OK, quel que soit ce par quoi je passe aujourd'hui, mais je vais choisir la foi, je vais choisir la joie, je vais choisir de regarder à la fidélité de Dieu. Je vais choisir de me dire que, même si je ne vois rien comme Abraham, espérant contre toute espérance, je choisis de croire, je choisis de me fortifier. Oui. Donc le choix, il est vraiment à nous et notre attitude. Ben, mm-hmm. Prenons exemple des personnes comme Joseph.
Clairement.
Mm-hmm. Notre attitude a beaucoup à voir. Parce que même souvent, les gens se disent, mais pourquoi ça dure si longtemps? Mais souvent, ça dure si longtemps, mm-hmm, à cause de l'attitude. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas Dieu qui décide, oh, ça va durer tant de temps. Souvent, c'est nous qui décidons indirectement.
Oui.
On fait durer les choses qui, des fois, ne prendraient pas autant de temps. Et mm-hmm, je vais en parler dans la rubrique
du coach.
Mais je crois que c'est tellement important quand on se dit que cette épreuve, on peut ou choisir qu'elle nous détruise, mm-hmm, ou on peut choisir qu'elle nous fortifie, oui, qu'elle nous affine, nous fortifie. Et ça peut devenir, au lieu d'être une pierre d'achoppement, mm-hmm, ça peut être une marche pour aller plus haut.
Wow,
et on décide.
Cette image. Mm-hmm. C'est très fort. Et vraiment, on parle de ce sujet, puis peut-être que vous vous dites, ouais, mais vous n'êtes pas dans ma situation. On sait que c'est difficile. On ne veut pas manquer de compassion. Mais volontairement, en fait, on est un petit peu frontal. Parce qu'en fait, il y a des moments où il faut se lever vraiment avec une sainte colère, avec une sainte rage, et puis dire, maintenant, ça suffit, ça a trop duré. Et volontairement, on secoue un petit peu, puis on essaye de changer un peu le regard sur l'épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on souffre pas, mais en fait, en changeant son regard, au lieu de s'apitoyer, au lieu de sombrer, ben en fait, au contraire, on lève la tête jusqu'à être assez fort pour commencer à déclarer ces paroles de foi qui vont faire toute la différence. Donc, c'est notre attitude est volontaire. Je veux pas que vous vous sentiez offusqué parce qu'on a conscience que certains d'entre vous, vous souffrez et vous souffrez depuis longtemps. Et le but, c'est pas de vous juger, de pointer du doigt peut-être ce qui a pu se passer avant ou après. Là, on vous parle de maintenant et on vous parle de demain. Comment la situation peut évoluer, comment la situation peut changer. Alors, je vous invite à garder le cœur ouvert alors que Audrey va pouvoir commencer sa rubrique parce qu'il y a des clés au niveau de la persévérance qui vont vous aider, j'en suis convaincue. Donc, Audrey, si tu es prête, on peut commencer avec notre rubrique Conseil du coach.
Ben, heureusement qu'il y a Yveline ici sur le plateau pour essayer d'alléger un peu les choses, parce que moi j'ai ce tempérament, j'avoue que des fois c'est quelque chose que Dieu a développé en moi depuis que j'étais toute jeune dans le Seigneur, et c'est une attitude qu'il m'a aidée à développer en moi qui m'a permis, comme j'ai dit souvent, de tuer le lion, de tuer l'ours et de tuer le géant du cancer. Et c'est cette qualité, ou c'est cette persévérance que le Seigneur m'a enseignée petit à petit au cours des années, qui m'a aidée à surmonter tous les affronts, toutes les attaques. Et c'est pour cela que des fois que je suis un petit peu forte, parce que mon cœur, ce n'est pas de vous rabaisser, mais de vous aider à vous relever et à affronter ce que l'ennemi essaie de vous jeter à la figure. Amen.
Amen.
Et il en a besoin de persévérance. Parce que la foi, on parle souvent de la foi, c'est la foi, comme Jésus a dit, ce qui va vaincre le monde, c'est notre foi. Amen. Et la foi, donc, c'est faire confiance à Dieu. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux 6, 12, que notre foi doit toujours être accompagnée avec la persévérance. Amen. Et la persévérance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose de passif où on attend sonnant les pouces pour que les choses passent. La persévérance, c'est en fin de compte quelque chose d'actif. C'est quelque chose où on pousse, on continue, on tient bon jusqu'au bout. C'est cette qualité intérieure dont nous avons besoin pour non seulement recevoir les promesses de Dieu, mais de les voir manifester jusqu'au bout. Et on en a tous besoin. Car voyez, la foi, en fin de compte, c'est de refuser. La foi doit refuser d'abandonner. Et c'est une attitude que l'on doit adopter dès le début. Je vois un passage qui est un de mes passages favoris. Dans Luc chapitre 18, on voit là Jésus voulait enseigner sur la foi ou cette qualité de foi qui ne va pas abandonner, cette qualité de foi qui va tenir bon jusqu'au bout. Et il raconte l'histoire d'une petite veuve qui, bien sûr, connaît ses droits, ce qui lui appartient. Et elle va vers un juge qui est injuste, inique. Et elle revendique, elle demande ses droits. Et Jésus explique un petit peu la situation et il dit, écoutez un peu, et il insiste, il dit, écoutez ce que le juge inique vient de dire. Mm-hmm. En d'autres mots, il souligne et il nous dit de faire attention aux paroles qui sont sorties de sa bouche. Et je vais peindre un petit tableau. Cette petite femme est allée vers le juge et le juge a dit, dans le verset 5, parce que cette veuve m'importune ou elle m'enquiquine, elle m'embête, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et c'est là où Jésus a dit, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Et très souvent, de là est née une doctrine qui, je sais, est fausse. Le fait de demander, voyez par exemple la guérison, où des personnes disent « je dois demander à Dieu » jusqu'à ce que finalement Dieu cède et me donne la guérison. Voyez, ça c'est la mauvaise approche. Mm-hmm. Là, Dieu ne parlait pas, quand il parle du juge, il ne parle pas de Dieu parce qu'il était injuste. Il ne craignait pas Dieu, il se fichait des gens. Il parlait là de l'ennemi. Et Jésus a dit, écoutez, faites attention à ce que, je paraphrase, ce que l'ennemi vient de dire, de peur qu'elle ne me rompe la tête parce qu'elle va venir sans cesse. Et venir sans cesse, ici, ça ne veut pas dire que cette petite veuve faisait le va-et-vient, qu'elle venait pour demander et de redemander et redemander et redemander. Non, non. La parole venir sans cesse, en grec, c'est la parole eis, telos, Erkomai. Et ça veut dire venir se tenir ferme jusqu'au bout ou jusqu'à la fin. Et c'est de ça que Jésus parlait. Il dit, écoutez ce que le juge vient de dire, de peur qu'elle ne vienne, qu'elle se tienne ferme et qu'elle ne va pas abandonner jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qui lui appartient. Eh ben, tant qu'à faire, je vais lui donner ce qu'elle veut. Mmh. Voyez, c'est en fin de compte, il y a comme une main de fer entre le diable. C'est-à-dire que quand on sait ce qui nous appartient, on doit s'approcher par la foi vers l'obstacle, vers les attaques, vers ce qui veut essayer de nous détruire avec la foi en se disant, ce côté de persévérance, ce côté de ténacité, ce côté de refuser d'abandonner, c'est une décision qu'on doit prendre au début dans notre foi. Peu importe combien de temps ça prend, peu importe ce que c'est, peu importe, je refuse d'abandonner. Et là, Jésus vient nous dire, si c'est votre attitude, que vous avez cette persévérance, cette ténacité dans votre foi, eh ben, vous savez quoi, le diable va dire, de peur qu'elle ne m'enquiquine, parce que je sais qu'elle va pas abandonner, je sais qu'elle ne va pas lâcher prise, je sais que dans la foi, elle est ferme, elle ne va pas laisser aller, ben, tant qu'à faire, je vais lui donner, je vais lâcher prise, je vais m'enlever les mains. Mmh. C'est, en fin de compte, c'est ce que l'ennemi, s'il sait que vous avez cette attitude, que rien ne va vous arrêter, que rien ne va vous faire sortir de votre foi, alors ben, l'ennemi va se dire, ben, y en a un qui va lâcher prise, ben, tant qu'à faire, c'est, vas-y, prends-le. Et il va abandonner s'il suspecte votre « je ne vais pas arrêter, je ne vais pas abandonner en cours de route ». Et vous savez, peut-être vous vous dites, ben c'est bien Audrey d'avoir cette attitude de ténacité, de persévérance, parce que la foi doit avoir cette attitude de persévérance, amène cette attitude que la petite femme avec la perte de sang avait, elle a refusé d'abandonner, amène même l'homme qui était paralysé, ils ont refusé, avec les quatre amis, vous rappelez, ils ont refusé d'abandonner, ils sont allés sur le toit, amen. Et donc pour développer ce genre d'attitude, ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir du jour au lendemain. Si vous n'avez jamais développé cette attitude dans votre cœur, le jour où vous êtes attaqué, le jour où l'ennemi vient pour vous attaquer, ce n'est pas le moment de développer cette attitude. Vous devez commencer à développer cette attitude dans les petites choses. Et vous savez, il y a un verset dans Zacharie, chapitre 4, versets 9 à 10, qui dit, et je sais que ça va pas l'air d'avoir aucun sens dans le contexte, mais attendez, écoutez jusqu'à la fin du verset. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, construit cette maison, et ses mains l'achèveront ou la finiront. Alors là, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car qui a méprisé le jour des petites choses? Et ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plan dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Qu'est-ce que là, ils sont en train, le prophète Zacharie est en train de nous dire, ne méprisez pas les petits commencements. Vous voyez la maison, quand vous allez voir la maison toute construite, vous allez dire, ah ben oui, je vois le plan dans la main de Zorobabel. Mais comment est-ce que Zorobabel a pu construire la maison? Parce qu'il a commencé dans les petites choses. Il a commencé, il n'a pas dénigré les petits commencements, les petites choses. Et il y a un autre verset, vous savez, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, dans le premier partie du verset qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pour vous dire que cette attitude de persévérance et de ténacité qui m'a permis de vaincre les déséquilibres chimiques du cerveau, ou qui m'a permis de vaincre le cancer, l'appendicite, bref, toutes les attaques que j'ai eues dans ma vie, et bien d'autres, c'est parce que tout au début, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, je me rappelle, j'avais 23 ans, bon, je suis toujours aussi jeune, mais bref. Quand j'étais tout, j'avais rencontré le Seigneur, ça faisait 6 ou 7 mois de là. Le Seigneur a commencé dans les petites choses à m'enseigner quelque chose. Je me rappelle, pour me faire un petit peu d'argent, je faisais des ménages. Et j'étais là, à quatre pattes, derrière, devant un WC pour nettoyer. La tentation était de commencer devant, là, puis de pas finir la chose. Et le Seigneur m'a dit non, finis toujours ce que tu commences. Et je comprenais pas, parce que moi, je dis, ça avait pas du tout l'air spirituel. Mais voyez, j'avais appris à simplement obéir, à écouter et à faire les petites choses que Dieu me demandait de faire. Et de là, petit à petit, le Seigneur m'enseignait, il me dit, quand tu commences quelque chose, peu importe si c'est ennuyeux, peu importe si c'est dur, tu le finis. Vous voyez, à la maison, si je commence quelque chose, je vais toujours le terminer. Si je vais commencer le ménage, je vais le finir. Si je vais dans une direction, je vais terminer. Je m'oblige à toujours finir ce que je commence. Et cela, qu'est-ce que ça fait? Ça a développé en moi cette ténacité, cette persévérance. Et quand les grosses attaques viennent, voyez, cette attitude a déjà été développée en moi dans les petites choses. Et je veux vous envoyer un avertissement, mes amis. Parce que la culture d'aujourd'hui fait tout pour détruire ce concept. Vous avez remarqué que maintenant, les médias, tout va plus vite. Plus vite. On est tenté de voir une petite vidéo, de l'arrêter en cours de route. Et maintenant, tout va plus vite, tout est plus court. On voit même dans des églises, maintenant, les cultes durent 20 minutes et puis tout le monde est comme ça. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est, ça? Ils essayent, l'ennemi fait en sorte de détruire cette attitude de persévérance que nous devons construire en nous, car c'est cette attitude de persévérance qui va nous aider à aller jusqu'à la fin, à finir ce qu'on commence, à marcher dans la foi et la persévérance. Alors, je veux vraiment vous encourager, dans les petites choses, à développer, même si ça n'a l'air d'avoir aucun lien, développer cette attitude de persévérance dans les petites choses, et vous allez voir que vous allez bâtir cette attitude en vous, et quand quelque chose de plus important frappe à la porte, vous aurez la foi et la persévérance qui est déjà en vous.
C'est un trait de caractère hyper important, la persévérance. Les gens persévérants, c'est ceux qui vont loin. C'est ceux qui sont capables que, même quand on leur dit non, comme cette petite veuve, eh ben, eux, ils entendent oui, en fait. Ils continuent, ils continuent. Et merci beaucoup, Audrey.
Et on voit, c'est pour ça que souvent, on est dans la culture, tu achètes, tu jettes si ça ne marche pas. On voit le divorce.
Oui.
Mon mariage ne marche pas, hop, on abandonne, on en trouve un autre. Cette attitude dans cette culture de consommation, de production, qui veut détruire cette qualité de persévérance, mais qui était tellement... on voit souvent dans des pays de tiers-monde, souvent dans d'autres pays où les gens sont beaucoup plus patients.
T'as raison, effectivement.
Beaucoup plus persévérants. Mm-hmm. Bref.
Tout à fait.
Mais j'en ai dit trop.
Non, absolument pas. Audrey, t'as tout à fait raison. Et puis, c'est vrai que c'est important de parler de cette génération qui n'est plus persévérante, qui n'a plus le courage d'aller au bout, qui se lasse très, très vite, qui se fatigue très vite. Parce que si on le fait dans le quotidien, dans les petites choses du quotidien, ben on va se lasser aussi dans l'épreuve. On va se décourager dans l'épreuve. Et on peut aller jusqu'à abandonner la foi, dire ben finalement, en fait, la foi, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et on renonce et il peut y avoir quand même de lourdes conséquences. Merci Audrey, merci pour cette rubrique.
J'espère que j'ai pas été trop lourde.
Absolument pas, absolument pas. Non, j'ai cru que tu voulais ajouter quelque chose. Non Audrey, tu n'as pas du tout été trop lourde, tu ne l'es jamais, voyons. Non, j'aime ton zèle en fait, ne change pas ça.
On le voit même dans ma façon de partager, Julia.
Oui, t'es passionnée et t'es passionnante.
C'est la vie et la mort qui sont vraiment dans cette qualité.
Oui, vraiment, vraiment. Et c'est essentiel et puis... Je crois que quand on parle de longues attentes, d'épreuves qui durent longtemps, eh bien, on ne peut pas aborder la persévérance juste du bout des lèvres. Il faut aller en profondeur parce que c'est nécessaire dans ces moments-là. Donc, non, merci Audrey, vraiment merci pour toute cette belle semaine qu'on a passée ensemble. On aurait voulu te garder un petit peu plus, mais on sait que tu reviens. Oui, toi, tu reviens souvent et on aime ça. Et on aime ça. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir donné tous ces enseignements de qualité. C'était vraiment très, très riche.
Merci, Audrey, hein.
Je crois que vous avez aimé aussi, Audrey. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous avez aimé cette belle semaine avec Audrey. Dites-le nous si vous nous suivez sur YouTube.
Et si vous n'avez pas aimé, ne le dites pas.
Non, effectivement. Abstenez-vous. Mais vous savez déjà, parce que nos téléspectateurs, ils sont bien. Ils disent que des choses gentilles et on vous aime pour ça. Allez, demain, on se retrouve. On va faire une petite suite à aujourd'hui. Quand on parle de longues attentes, on peut penser à de l'infertilité. Et demain, c'est une émission qui vous est dédiée pour tous ceux qui n'ont pas encore pu avoir d'enfants. Couple infertile, comment gérer l'attente? Donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui est bien sûr essentiel dans ce contexte-là aussi. Mais demain, on sera spécifique pour vous. Et nous aurons une rubrique, c'est mon histoire. C'est pasteur Mamina Lumande qui nous a raconté comment de stérile, elle est devenue mère de 4 enfants, famille nombreuse. Oui, 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 il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Merci d'avoir été avec nous et merci encore Audrey.
Merci.
À bientôt.
Je vous aime.
On t'aime aussi. Allez, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.